Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des dizaines de policiers enquêtent sur Michael Harpon, l'informaticien de la préfecture de police de Paris, qui a tué au couteau quatre de ses collègues le jeudi 3 octobre. Pour décortiquer ces données informatiques, notamment une clé USB, pas moins de 160 policiers sont mobilisés. Pourquoi est-il resté à ce poste sensible malgré un signalement en 2015 ? Avait-il des complices ? A-t-il communiqué des données ? Combien de fonctionnaires sont radicalisés aujourd'hui au sein de la police ? Cette attaque terroriste pose de nombreuses questions. Cet épisode de Code Source est raconté par deux spécialistes police-justice du Parisien, Jean-Michel Descugis et Damien Delceni.
Il y a quelques instants, à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, en plein cœur de la capitale, un homme s'est introduit dans l'enceinte de la préfecture avec une arme blanche. Il s'en est pris à plusieurs personnes, à plusieurs fonctionnaires de police. Pour l'instant, le bilan est encore extrêmement flou.
Michael Harpon, il a 45 ans, il est né à Fort-de-France. Il est malentendant, marié avec une jeune femme marocaine, malentendante aussi, deux enfants. Et il vivait dans une petite cité de Gonesse, où visiblement il ne posait aucun problème et où les gens disaient que c'était quelqu'un de sympathique et serviable.
Michael Harpon est sourd donc, comment est-ce qu'il vit ce handicap ?
Visiblement, ces derniers temps, il le vivait assez mal, parce que sa surdité empirait et qu'il avait demandé à suivre une formation pour pouvoir changer plus ou moins de travail. Il avait obtenu certaines choses, mais pas toutes, et visiblement, il était assez aigri, frustré.
Parlez-nous donc du lieu où il travaille, la DRPP, c'est quoi ?
Alors la DRPP, c'est les anciens RGPP, ces fameux renseignements généraux. C'est un service sensible qui travaille sur une matière très sensible, le terrorisme, l'ultra-gauche, enfin, tous les extrémismes, les violences urbaines, et qui, évidemment, a des données sensibles, et Michael Harpon, eh bien, avait une habilitation secret défense.
Concrètement, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'informaticien à la préfecture de police de Paris ?
Il est en charge du réseau, il s'occupe aussi de la maintenance. D'ailleurs, pour l'anecdote, il va régulièrement dans le bureau de la directrice des renseignements, qui fait appel à lui pour des problèmes informatiques, comme tout un chacun.
Il travaille dans ce département depuis 2003. Comment est-ce qu'il est décrit par ses collègues ?
Très sympathique, serviable. Bon, il a un surnom dans le service qui n'est pas forcément sympathique, on l'appelle Bernardo, en référence au feuilleton Zorro, puisque l'aide de Zorro s'appelle Bernardo et qu'il souffre de surdité.
Michael Harpon se convertit à l'islam en 2008, ce qui n'est évidemment pas le problème en soi. Il va se radicaliser progressivement et ses collègues ne voient rien visiblement jusqu'en 2015 où il se réjouit de l'attentat contre Charlie Hebdo. Ce comportement sera rapporté uniquement de façon orale par des collègues au supérieur, mais sans aller jusqu'à un rapport écrit. Damien Delceni, vous êtes chef du service police-justice du Parisien. Que fait Michael Harpon le matin du jeudi 3 octobre ?
Alors il se lève normalement chez lui le matin, il va prendre son train pour Paris, il habite Gonesse, il a une grosse demi-heure de transport, il arrive à la station Saint-Michel, on le sait parce que les policiers vont remonter toutes les caméras de vidéosurveillance de la ligne, on voit son passage à ce moment-là. Entre Saint-Michel et la préfecture de police, il y a 2-3 minutes de marche, et il rentre à la préfecture quelques minutes avant 9h, à 9h moins 2, 9h moins 3, ce qui semble être une habitude pour lui, il a des horaires assez précis, assez arrêtés, et donc il s'installe à son poste de travail, il est 9h.
Comment se passe la matinée ?
La matinée, elle se passe à peu près normalement jusqu'à la fin de la matinée, où en fait il quitte son poste de travail. Il sort de l'enceinte de la préfecture de police. Tout ça, on le sait parce que comme il a un badge pour naviguer dans le bâtiment, c'est des bâtiments qui sont quand même relativement sécurisés. Chaque sortie et chaque entrée laisse une trace sur le badge. Donc on sait qu'en fin de matinée, il quitte le bâtiment de la préfecture, il traverse la Seine et il remonte la rue Saint-Jacques jusqu'à un magasin de bricolage.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Là, il achète deux couteaux. Un couteau en métal assez long de 33 cm et un couteau plus petit, un couteau à huître. Il paye ses articles, il sort. Tout ça sera d'ailleurs repéré par des policiers après coup sur des caméras de vidéosurveillance. Par contre, il leur manque une étape, c'est qu'il va à un moment donné aller se cacher dans la rue, dans un coin un peu plus tranquille, pour dissimuler ses deux couteaux sur lui. C'est-à-dire pas les avoir dans un sac ou dans la main, évidemment. Et donc, il cache ses couteaux et il retourne ensuite dans l'enceinte de la préfecture à son poste de travail.
Alors justement, il arrive à passer les contrôles. Comment ça se fait que ça ne sonne pas au portique ?
Parce que c'est pas un visiteur lambda qui rentre dans la préfecture de police. Vous avez deux types de contrôles. Vous avez le visiteur qui rentre pour faire des démarches administratives. Lui, il va faire l'objet d'une fouille. Son sac va être fouillé, ouvert, regardé, passé sous un portique. Quand vous êtes employé, que vous soyez policier, vous soyez comme lui agent administratif, les contrôles sont plus légers. Vous avez un badge, donc vous passez votre badge. En plus, les gens vous connaissent puisque vous venez tous les jours. Donc, il y a un contrôle qui est très, très léger à l'entrée en réalité.
Où est-ce qu'il va après ?
Alors ensuite, il va d'abord retourner dans son bureau et puis il va surtout envoyer pas mal de messages, on le saura après, pas mal de SMS à son épouse, une trentaine en tout dans la matinée, avec plus le temps avance dans la matinée, plus les messages se font rapprocher. Sa femme est restée à Gonesse, elle va recevoir ces SMS qui sont tous à caractère religieux. Ensuite, on est en fin de matinée, on est même au niveau de la pause déjeuner. Donc on imagine, hein, il y a beaucoup de fonctionnaires qui partent déjeuner à l'extérieur. Et il y en a quelques-uns, comme le major Damien, qui va lui rester déjeuner au bureau. Il devait sortir d'ailleurs déjeuner avec des collègues. Et puis au dernier moment, il a annulé. Il a dit non, mais je vais rester au service. Et donc il se trouve dans une espèce de petite salle de repos qu'il y a dans le service, où il y a un micro-ondes, où il y a quelques chaises et quelques tables pour déjeuner. Et c'est à ce moment-là que Michael Harpon va faire irruption dans cette pièce. Il s'attaque donc au major Damien, qui vraiment est en train de faire réchauffer son déjeuner, et il le frappe de manière extrêmement violente avec son couteau au niveau du cou. Il porte vraiment un nombre important de coups. On relèvera une petite quinzaine de coups au niveau du bas de la tête et du cou, également du thorax. Donc c'est une scène qu'on imagine extrêmement violente et extrêmement rapide, et qu'il va reproduire quelques secondes après sur un deuxième homme qui est présent lui aussi dans la salle, et qu'il va aussi frapper de manière extrêmement violente avec son couteau, pareil au niveau thoracique.
Il s'attaque aussi à un agent administratif.
Alors ensuite, il va d'abord sortir de cette pièce de repos, et il va souhaiter en fait rentrer dans une autre pièce, parce qu'il sait qu'il y a d'autres policiers dans cette pièce. Il se trouve qu'à ce moment-là, cette pièce, elle est fermée, elle est verrouillée, donc il ne peut pas rentrer. Donc il va continuer son périple, et là, il va croiser un troisième homme qui est agent administratif, en fait, un peu comme lui. C'est pas un policier, c'est un agent administratif qui travaille pour la préfecture, qu'il va également poignarder. Là, on est toujours à l'étage de la DRPP. Et ensuite, il va emprunter les escaliers pour redescendre en fait dans la cour principale de la préfecture de police. Et c'est dans cet escalier qu'il va poignarder deux femmes. Aurélia, la jeune femme qui va décéder, qu'il va poignarder aussi à plusieurs reprises. Et une deuxième femme qu'il va poignarder quelques mètres plus bas dans l'escalier, qui elle va être grièvement blessée mais qui ne va pas décéder. Et ensuite, cet escalier, en fait, il donne accès à une porte de sortie dans la cour principale. La cour principale de la préfecture, c'est cette énorme cour qui est une cour carrée, très grande, avec de nombreuses issues, et qui permet aussi de sortir ensuite dans la rue. Et cette sortie, elle donne notamment, pour qu'on se rende bien compte, sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Donc il va arriver dans cette cour carrée pour en fait continuer son périple meurtrier et peut-être même sortir de l'enceinte de la préfecture.
Est-ce qu'à ce moment-là, il crie ? Est-ce qu'il dit quelque chose ?
Non, il n'y a pas de bruit particulier. Bon, il faut quand même savoir qu'il parle, hein, Michael Harpon, il est sourd, mais il parle pas non plus d'une manière forcément comme vous et moi. En tout cas, il n'y a pas de propos, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de choses comme ça.
C'est dans la cour, en tout cas, qu'il est arrêté dans sa course.
Dans la cour, il sort d'abord de manière assez calme, sans courir. Et à ce moment-là, il est mis en joue par un jeune policier qui s'occupe en fait de la garde du bâtiment, qui le voit sortir avec son couteau dans la main. Il semble pas affolé à ce moment-là. En revanche, dès que le policier va lui faire les premières sommations, c'est-à-dire lui demander de lâcher son couteau et de lever les mains, non seulement il va pas le faire, mais surtout il va se mettre en fait à marcher vite, puis à courir vers le policier. Il va en quelque sorte charger le policier, qui va donc refaire une deuxième sommation, et puis finalement ouvrir le feu quand il sent que Michael Harpon fonce sur lui avec ses couteaux et qu'il est en état de légitime défense et qu'il faut absolument le neutraliser surtout. Donc il va tirer deux fois et il va l'atteindre mortellement, et Michael Harpon s'effondre sur la petite cour pavée à quelques mètres de la porte d'entrée principale de la PP.
Qu'est-ce qu'on sait d'un mot sur le jeune policier qui a neutralisé l'assaillant ?
Il est en poste depuis 6 jours à ce moment-là à la préfecture de police. Il sort de l'école. Donc c'est sa première affectation, il vient de commencer son nouveau métier, il est très jeune, et donc il a au moins ce sang-froid, d'abord de tout de suite voir la gravité de la situation, sans oublier de faire les sommations, et surtout en faisant un tir dans une zone où on imagine qu'il y a quand même encore un peu de monde, même si tout le monde a dû commencer à s'abriter, on est quand même dans un lieu qui est encore public, et donc il va faire usage deux fois de son fusil pour abattre le terroriste.
Cela met fin à la tuerie. Au total, 4 fonctionnaires sont tués.
4 fonctionnaires, 3 hommes d'abord, on l'a dit, 2 hommes dans la première pièce, un homme ensuite sur le trajet et une femme dans l'escalier.
Qui sont les 4 victimes? Est-ce qu'on peut dire un mot de Damien, Anthony, Brice et Aurélien?
Bah, vous avez toutes sortes de profils. Vous avez des policiers qui ont, pour certains, une carrière déjà importante, comme le major qui travaille depuis déjà un certain temps dans la police. Vous avez Aurélia, cette jeune femme qui est mère de 2 enfants, qui habite en Seine-et-Marne, qui rêvait depuis toute petite de devenir policière, qui était devenue policière, qui s'occupait elle plutôt, d'ailleurs, qui avait plutôt un rôle administratif au sein de l'APP, qui s'occupait notamment de la gestion des plannings, etc., mais qui était une femme très très apprécié. Et puis vous avez aussi Brice qui a lui un profil un peu particulier parce que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies avant, qui a fait notamment du théâtre, qui a fait le cours Florent, qui a fait un peu de publicité, puis qui est rentré à l'APP sur le tard entre guillemets, même s'il n'a qu'une 30aine d'années, mais qui a eu une toute autre vie avant. Donc voilà, on a des gens qui ont des profils très différents et qui avaient tous comme point commun effectivement d'être pour la plupart à la DRPP.
Rapidement après l'attaque, la femme de Michael Harpon est placée en garde à vue.
Oui, ça c'est assez traditionnel. La compagne d'un terroriste, ses proches sont souvent les premiers à être interpellés et interrogés. Donc là c'est le cas, effectivement, dans les minutes qui suivent. Dès que les policiers ont la certitude de son identité et de son adresse, ils se rendent au domicile de Michael Harpon à Gonesse et ils interpellent sa compagne immédiatement.
Comment est-ce qu'elle réagit?
Elle est évidemment sidérée, mais peut-être sidérée par ce qui s'est passé, mais elle n'est pas complètement non plus surprise parce qu'elle dira assez rapidement au cours de ses auditions, elle dira 2 choses. Elle dira notamment que la nuit précédente, le comportement de son mari, qu'elle trouvait déjà un peu étrange depuis quelques jours, l'a été encore plus parce qu'il s'est mis à pousser des cris au milieu de la nuit, des choses assez étranges et qui pouvaient déjà montrer qu'il était rentré dans une nouvelle phase de sa radicalisation. Et puis, elle ne peut pas ignorer non plus les échanges de SMS très nombreux qu'elle a eu avec lui dans la matinée. Alors certes, des messages à caractère religieux, mais qu'elle interprétera même elle-même à un moment donné peut-être comme un malaise profond de son mari avec peut-être des envies de suicide. Elle ne pense pas, elle, dit-elle au policier, qu'à ce moment-là, il est en train de préparer un passage à l'acte imminent sur d'autres personnes, mais elle envisage l'hypothèse qu'il puisse mettre fin à ses jours parce qu'elle le trouve pas bien depuis plusieurs jours.
Est-ce qu'elle a vraiment dit dans l'un des messages « Dieu seul te jugera » ?
Ça fait partie dans la foule des messages de ce qui a été rapporté. Après, « Dieu seul te jugera », c'est on peut l'employer pour tout un tas de situations, entre guillemets. Dans les messages, en tout cas, il n'y en a pas un ou plusieurs qui permettent clairement de penser, en tout cas à ce stade, qu'elle était au courant, complice, ou qu'elle aurait pu déduire que les messages avaient un caractère de préparation d'une opération terroriste.
En tout cas, elle sera relâchée 4 jours plus tard. Aux yeux des policiers, vraiment, elle n'est pas suspectée d'être complice?
En l'état, non, puisqu'elle est remise en liberté sans même avoir été déférée ou mise en examen. Donc ça veut dire qu'à ce stade-là, dans le dossier, dans tout ce qui a pu être épluché déjà des perquisitions, de ses auditions, il n'y a pas d'éléments qui permettent de penser qu'elle a pu non seulement inciter, mais surtout qu'elle a pu même être au courant d'un projet quelconque qu'elle aurait caché ou qu'elle aurait volontairement dissimulé.
Jean-Michel Descugisson revient le jour de l'attaque terroriste, le jeudi 3 octobre, dans l'après-midi, à 16h35. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, fait sa première déclaration. Qu'est-ce qu'il dit en substance?
Il dit que Michael Harpon n'a jamais été présenté comme quelqu'un qui avait des difficultés comportementales, qu'il n'y avait jamais eu de signal d'alerte.
Il n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte.
Et sans doute, il a parlé un peu vite. Très vite va remonter le fait que des collègues de travail avaient signalé des signes de radicalisation chez lui ces dernières semaines. Certains disent qu'il ne serrait plus la main des femmes, ne leur faisait pas en tout cas la bise, qu'il y avait eu ce problème à un moment des attentats de Charlie Hebdo où il avait cautionné ces attentats. Donc tout ça remonte. Et là, évidemment, l'opposition va se déchaîner.
J'appelle aujourd'hui Christophe Castaner à cesser ses fonctions.
L'opposition a demandé sa démission, il est entendu par les différentes commissions, et bon, il est effectivement très fragilisé.
Christophe Castaner qui va s'en expliquer à deux reprises cette semaine, à l'Assemblée puis au Sénat.
C'est en trouvant des réponses que nous ferons en sorte que plus jamais cela ne se reproduise.
Et ce mardi 8 octobre, dans la cour de la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron a rendu hommage aux fonctionnaires tués.
Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer.
Jean-Michel Descugis, au niveau de l'enquête, quelles questions les policiers vont devoir éclaircir aujourd'hui ?
La première chose, c'est de savoir s'il a, oui ou non, bénéficié de complicité. Est-ce qu'il a pu transmettre des informations secret défense à des terroristes ou même à Daesh ? Et ce qui inquiète beaucoup, c'est cette clé USB qu'on a retrouvée dans son bureau, dont le Parisien a révélé l'existence.
Une clé USB devenue un précieux indice pour l'enquête. Elle contient une liste de noms, des coordonnées et des données personnelles concernant plusieurs dizaines de ses collègues à la préfecture de police.
Pourquoi elles étaient sur cette clé USB, à côté de vidéos décapitation ? Est-ce qu'il a transmis ses coordonnées à d'autres terroristes ? Les policiers vont devoir répondre à ces questions, évidemment.
Ça va être un long travail de décryptage pour savoir quels sont les fichiers et à qui éventuellement ont-ils été transmis.
Damien Delceni, cette attaque terroriste au sein même de la préfecture de police de Paris, j'imagine que c'est un grand traumatisme pour tous les policiers.
C'est un double traumatisme. D'abord, géographiquement, ça se passe au cœur de l'appareil policier parisien et de l'appareil historique policier parisien. Et en plus, l'attaque, elle est commise, alors pas par un policier, mais en tout cas par un fonctionnaire de la préfecture de police. On savait que c'était le scénario du pire et forcément il y aura un avant et un après cette histoire-là parce que quand on est frappé de l'extérieur déjà dans un bâtiment comme celui-là, c'est très difficile à gérer. Mais là, quand en plus on sait que l'attaque est venue de l'intérieur par quelqu'un qui était là depuis plus de 15 ans dans un service censé, entre autres, mettre hors d'état de nuire les radicalisés et les repérer, et que on a laissé quelque part germer au milieu de ces bureaux un véritable poison, c'est forcément traumatisant d'abord, et ensuite ça pose de vraies questions sur la remontée de l'information, sur comment on gère ces cas-là à la préfecture de police, mais quelque part dans tous les commissariats de France. À quel moment on le signale ? Comment faut-il le signaler ? Ça laisse forcément des traces extrêmement profondes.
On sait combien il y a de policiers sur lesquels il y a des suspicions de radicalisation en France ?
Alors oui, on sait qu'il y a à peu près une trentaine de policiers radicalisés. Aujourd'hui, on sait que l'IGPN, la police des polices, suit 19 fonctionnaires, que certains ont été radiés, 6 d'entre eux. Mais parfois, et c'est un véritable casse-tête pour l'institution, le tribunal administratif annule ces révocations et réintègre les policiers dans l'institution. Parfois, ils sont mutés. C'est très compliqué, à la fois pour de signaler des faits de radicalisation pour les collègues de travail, parce qu'il ne faut pas qu'ils se loupent, ils peuvent être traités, catalogués de discrimination. Et puis ensuite, parfois il y a des vengeances, il y a des gens qui vont faire des faux témoignages, donc c'est difficile de faire la part des choses.
Effectivement, le problème il est double, c'est comment et à partir de où on met le curseur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut considérer comme de la radicalisation ? Est-ce que ce sont des propos ? Est-ce que c'est une fois ? Est-ce que c'est des propos réitérés ? Est-ce que c'est des habitudes vestimentaires qui changent ? Est-ce que c'est plusieurs facteurs à la fois qui doivent amener à... Donc il faut presque inscrire dans le marbre qu'est-ce qui va être le mode d'emploi du radicalisé dans les services publics et dans la police en particulier. Et une fois que ça c'est déterminé, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? C'est-à-dire, il suffit pas de lever la main et de dire « mon voisin est radicalisé », après il faut mettre tout ça sur du papier. Là, ce qui semble avoir arrêté la procédure en 2015, c'est quand on leur a demandé de faire un rapport. Faire un rapport, c'est quoi ? C'est laisser son nom et son matricule sur une feuille écrite, c'est quelque chose qui poursuit après, et c'est quelque chose qui laisse une trace. Là, on a préféré le rapport oral, c'est-à-dire on va voir son chef intermédiaire, on dit « voilà, on a un problème avec Mickaël Harpon », lui il leur dit « pas de problème, je gère », tout ça se fait sans aucun papier, sans aucun rapport, on n'a pas de problème avec la hiérarchie du dessus qui viendrait nous voir en disant « mais qu'est-ce que c'est cette histoire avec Mickaël Harpon », tout ça reste quelque part, c'est la poussière qu'on met sous le tapis, en espérant qu'il ne se passe jamais rien, et quand il se passe quelque chose comme là, on découvre effectivement qu'il y a de la poussière sous le tapis.
Merci à Jean-Michel Descugis et Damien Delceni. Dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux, production Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.